Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute. Voilà, je vous invite à prendre vos Bibles pour l'ouvrir dans les Évangiles. Alors, nous lirons un texte dans chaque Évangile. Il y a beaucoup de textes aujourd'hui, mais c'est des petits textes. Et sachez déjà que le titre de la prédication sera « Jésus est-il vraiment mort ?» Bon, on verra tout ça tout à l'heure, mais c'est bien d'avoir cette question en tête quand on lit ces textes. Donc, je vous propose d'ouvrir déjà vos Bibles dans Matthieu 27. Et puis ensuite, vous savez qu'il y aura un deuxième texte dans Marc 15. Puis après, les autres textes vous seront annoncés avant chaque lecture. Donc nous commencerons dans Matthieu 27, au verset 50, et nous entendons maintenant ces lectures.
Matthieu 27, verset 50. Un verset, tout simplement. Jésus poussa de nouveau un cri d'une voix forte et rendit l'esprit. Et puis la prochaine lecture dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 15, ce sera les versets 38 et 39. Marc, chapitre 15, les versets 38 et 39. Le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas. Le centurion qui se tenait en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Et puis on va naturellement dans l'Évangile de Luc, puisqu'on parcourt les quatre, comme ça a été dit. On va au chapitre 23, Luc chapitre 23, pour lire le verset 46. Chapitre 23, verset 46, « Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Et puis dans l'Évangile de Jean, au chapitre 19, et là on va lire un passage un peu plus long, les versets 30 jusqu'au verset 37. Évangile selon Jean, chapitre 19, verset 30. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. C'était le jour de la préparation, et pour ne pas laisser les corps en croix pendant le sabbat, or ce sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate de les faire enlever après leur avoir brisé les jambes. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Arrivés à Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un soldat lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit de l'eau et du sang. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage et son témoignage est vrai et lui, il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez, vous aussi. Cela est arrivé afin que l'Écriture soit accomplie, aucun de ses os ne sera brisé. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils regarderont à celui qu'ils ont percé. Et puis on fait un saut en avant, on va dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, et puis on lira les versets 3 et 4. 1 Corinthiens 15, les versets 3 et 4. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et puis on avance encore un bout dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9. Hébreux, chapitre 9. Et on va lire les versets 24 à 28. « Hébreux chapitre 9, verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, imitation du véritable, mais dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'y est pas entré afin de s'offrir plusieurs fois, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Car alors, le Christ aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même aussi le Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'un grand nombre, apparaîtra une seconde fois, sans qu'il soit question du péché, pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. Et puis on fait un petit retour en arrière, jusque dans le livre des Actes, au chapitre 17. Actes, chapitre 17, et on lira les versets 30 à 32. Actes, chapitre 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice, par un homme qu'il a désigné, et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ».
Alors vous savez que l'oxygène autour de nous, nous la respirons. Alors si je vous demandais de plus respirer pendant 5-6 minutes, vous vous rendriez compte, c'est un peu difficile de vivre sans oxygène, on en a besoin. Eh bien, on a besoin du Saint-Esprit aussi pour comprendre et vivre l'enseignement biblique. Nous comptons sur quelque part l'oxygène du Saint-Esprit pour comprendre cette parole ce matin. En 2012, oula, ça fait du temps ça. En 2012, ça fait longtemps, j'avais donné une prédication qui s'intitulait « Enquête sur l'affaire, la disparition du corps de Jésus ». Et ensuite, à Pâques, chaque année, eh bien, nous avons eu des différentes prédications en lien avec Pâques. Vous pouvez d'ailleurs réécouter toutes ces prédications sur le site www.eribn.ch. Et en 2021, nous avions placé 7 panneaux à vide d'enquête dans Peseux, dans le village environnant ici. Et les gens pouvaient faire un petit tour et puis aller voir tous ces panneaux. Et depuis cette année, chaque année, eh bien, on met les panneaux sur la voie publique ici devant l'église pour que chacun puisse les lire. Et puis je me suis dit, ça serait quand même peut-être intéressant d'avoir une prédication pour chaque sujet, pour chaque panneau. Ben voilà, nous sommes embarqués dans une série de prédications maintenant que j'intitulerai « Avis d'enquête ». Et nous allons voir les différents sujets donc, qui sont sur ces panneaux. Je ne sais pas si vous les aviez déjà lus. Le premier, c'est « Les écrits qui nous sont parvenus sont-ils fiables ?» Ou encore « Jésus est-il vraiment ressuscité ?» Ah non, celui-là n'y est pas. C'est en fait la question pour tous. Est-il vraiment ressuscité? Et chaque panneau, en fait, parle d'un élément qui nous aide à le comprendre. Et Jésus est-il vraiment mort? Le corps de Jésus a-t-il été volé? Y a-t-il des témoins de la résurrection? Les témoins se seraient-ils trompés de tombeau? Les témoins ont-ils tous rêvé? Et que change la résurrection de Jésus? Bon, on ne va pas tout faire ça aujourd'hui. J'ai dit, j'en fais une prédication par sujet. Et je ne vais pas commencer par la première, par le premier, parce qu'en fait, cette année, au mois d'août, donc je fais déjà de la publicité, il y aura une soirée qui s'appelle les soirées ACD au commencement Dieu, où nous parlerons de la formation du canon biblique. Donc nous réfléchirons déjà aussi à comment le canon biblique s'est formé, et il y a des éléments aussi qui nous démontreront que ces écrits nous sont fiables. Voilà pourquoi j'ai choisi de commencer par le deuxième. Jésus est-il vraiment mort? Voilà la question du jour, et on verra pourquoi on se la pose. Donc on va vivre cette prédication un peu en mode enquête. On va tous devenir des détectives, chercher des indices, tester des hypothèses, arriver à une conclusion. Et un détective, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Donc si quelqu'un veut faire détective et qui ne se pose pas de questions, ce n'est pas un métier pour lui. Il doit apprendre à se poser beaucoup de questions. Ça sera un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est normal qu'il y ait beaucoup de questions aujourd'hui, parce qu'on est des détectives. Voilà. Donc l'avis d'enquête du jour est « Jésus est-il vraiment mort ?» Et on va aborder cette enquête en quatre parties. La première partie, j'aimerais quand même développer pourquoi on se pose cette question, en fait. Ça peut être intéressant de le savoir, hein. Ça sera la première partie. Pourquoi cette question ? Ensuite, on fera l'enquête proprement dite, avec toutes les questions qui vont nous aider à savoir s'il est vraiment mort. On en verra quelques-unes, on peut en poser beaucoup plus que ce qu'on verra, évidemment. Et troisièmement, pourquoi et pour qui Jésus est-il mort ? Et quatrièmement, qu'est-ce que la mort de Jésus change pour nous ? Voilà donc les quatre éléments qu'on va voir ensemble ce matin. Donc première question, pourquoi cette question ? Pourquoi se poser la question « Jésus est-il vraiment mort ?» Alors c'est vrai qu'avant de se poser la question « Est-il vraiment mort ?», il serait intéressant de demander s'il a vraiment vécu sur Terre. Alors oui, les détectives, ça va loin, hein, ils commencent à réfléchir. Mais comme l'enquête de ce matin est déjà bien fournie, avec nous, tout ce que nous allons voir, nous allons prendre pour acquis que Jésus a vraiment existé. Hein, ça pourrait être une autre enquête, très intéressante d'ailleurs à faire, de savoir est-ce qu'il a vraiment existé, est-ce qu'il est vraiment venu, etc. Mais selon les enquêtes que j'ai déjà pu voir, en fait, il n'est aujourd'hui pas possible de nier que Jésus a bien existé. Je donne juste un indice, mais comme j'ai dit, je ne vais pas faire l'enquête aujourd'hui. Nous sommes en quelle année ? En 2024, après Jésus-Christ. Donc il y a bien dû y avoir quelque chose qui s'est passé pour qu'on parle des années en lien avec Jésus-Christ. Mais voilà, je laisse ceci de côté en disant clairement que Jésus a existé. Mais pourquoi se demander si Jésus est vraiment mort ? Alors je vais donner quatre principales raisons que je vais développer très courtement. La première, qui est la principale, si Jésus n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. Voilà. S'il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité et il n'est pas Dieu. Puisque ça prouve que Jésus est Dieu. Deuxièmement, si Jésus n'est pas mort, il n'est pas notre substitut. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris sur lui la condamnation de Dieu qui pesait sur nous. Troisièmement, la majorité des musulmans, ça fait environ 2 milliards de personnes sur Terre, donc ça fait pas mal de personnes, croient que Jésus n'est pas mort sur la croix. C'est aussi pour ça qu'on va voir cette question. Et quatrième raison, il existe une théorie de l'évanouissement qui dit que Jésus aurait été mis dans le tombeau en étant évanoui et non mort. Voilà pourquoi on répond à cette question. Alors, pour la première raison, qui est la plus importante, la plus facile à comprendre, si Jésus n'est pas mort, il n'est pas revenu à la vie à ce moment-là. Il n'est pas vivant maintenant non plus. Cela signifierait qu'il n'y a pas de résurrection. S'il n'y a pas de résurrection, il n'est pas Dieu. Et il n'y a aucune espérance, en fait, pour nous. Car tout ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, si Jésus n'est pas mort et ressuscité, est faux. Pourtant, le texte du Nouveau Testament est le texte le plus sûr du monde, historiquement. Alors ça, c'est pour la CD et puis une prochaine prédication. Mais c'est le texte le plus sûr du monde, je peux l'affirmer, sans problème. Voilà, donc si Jésus n'est pas ressuscité, n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. Deuxièmement, donc, la mort de Jésus est importante car elle nous indique qu'il a pris sur lui notre condamnation. Il a payé à notre place. Hein ? Le salaire du péché, c'est la mort. Et cette mort est retombée sur lui. Nous y reviendrons en fin de prédication. Et troisièmement, là je prendrai quelques minutes, la majorité des musulmans croient que Issa, un de leurs prophètes, n'est pas mort sur la croix. Je vais juste faire trois remarques. La première, c'est que Issa est un personnage de l'islam qui est un travestissement du Jésus de la Bible. Mais les musulmans croient que c'est le Jésus des évangiles. Deuxième remarque, selon les musulmans, les évangiles ont été falsifiés. Donc ils croient que leur Dieu Allah est tout puissant, mais en réalité, il n'a pas pu conserver les écrits de ses prophètes que les juifs et les chrétiens ont modifiés et qu'il n'a pu que protéger le Coran, et encore, dans la langue originale, enfin, qu'ils disent originale en arabe. Mais il faut savoir que la Bible, qui parle de résurrection, la résurrection de Jésus-Christ, est le livre le plus attaqué, et pourtant le mieux attesté de loin devant tout autre écrit dans le monde, même le Coran. Et troisième remarque, beaucoup de musulmans pensent que c'est soit un sosie de Jésus qui a été crucifié, donc quelqu'un qui lui ressemblait beaucoup, ou soit Judas. Mais si Jésus n'est pas mort et ressuscité, tout le christianisme serait basé sur une supercherie connue. C'est vrai que des gens sont capables de mourir pour une cause qu'ils croient vraie, même si elle est fausse. Mais mourir pour une cause que l'on connaît fausse, c'est impossible. Et puis si ce n'était pas Jésus et un sosie qui étaient morts sur la croix, qu'est-il arrivé à Jésus alors? Je vais m'arrêter là pour ces quelques remarques. Et quatrièmement, la théorie de l'évanouissement et que Jésus n'est pas mort était très à la mode en fait au 19e siècle, au siècle des Lumières où on dit que c'est la raison qui en fait permettait de tout comprendre. Bon, on verra dans l'enquête que la raison va un peu contre cette conclusion. Mais enfin, cette théorie, on a l'impression qu'elle... Pourquoi elle existe? Elle vaut rien, mais pourtant elle revient régulièrement. J'ai même encore vu un livre complet écrit en 2018 pour prouver que Jésus n'est pas mort, mais qu'il s'est juste endormi. Et puis, enfin, on verra après qu'est-ce que ça signifie s'il était juste endormi dans notre enquête. C'est donc pour ces raisons. Donc la première, si Jésus n'est pas vraiment mort, il n'est pas ressuscité. La deuxième, si Jésus n'est pas mort, il n'a pas pris sur lui notre péché. Troisièmement, c'est parce que les musulmans croient que Jésus n'est pas mort. Et quatrièmement, il y a cette théorie de l'évanouissement. C'est pour ces raisons que nous allons maintenant faire notre enquête. Et la réponse positive nous permettra de comprendre qu'il est ressuscité. Donc s'il est vraiment mort, il est ressuscité. Il est vraiment mort, il a pris ma place. Il est vraiment mort, ce n'est pas le prophète Issa de l'islam. Et cela prouvera sa divinité, justement. Jésus est divin, il est Dieu. Et troisièmement, nous aurons la certitude de son décès, donc de la véracité de tout ce que la Bible enseigne. Et c'est un grand nombre de versets qui affirment que Jésus est mort. On en a lu toute une série déjà tout à l'heure. Tout ce qu'on a lu avant la prédication devrait être enlevé de la Bible si Jésus n'était pas réellement mort. Menons notre enquête. Donc l'enquête de l'amour de Jésus. Donc comme j'ai dit, un détective se pose beaucoup de questions. Je vais vous en donner toute une série, et si vous en avez d'autres, notez-les et venez me les dire après, ça m'intéresse. Hein? Donc si j'en avais d'autres questions que ce que je vous pose. Alors écoutez déjà celles que je vous pose. Vous êtes prêts? Ça va aller vite parce que les détectives réfléchissent très vite. Mais on va reprendre quelques-unes. Hein? Donc l'amour de Jésus a-t-elle été annoncée? Et par qui? Jésus avait-il des ennemis qui voulaient sa mort? Les ennemis de Jésus l'auraient-ils laissé vivant? Et quelles précautions auraient-ils pris pour que Jésus ne puisse pas vivre? Est-il possible que l'on ne s'aperçoive pas de sa mort? La mort de Jésus a-t-elle été constatée? Est-il médicalement possible que Jésus ne soit pas mort? Quelles auraient été les capacités particulières que Jésus aurait dû avoir s'il n'était pas mort? Jésus aurait-il pu se libérer de son linceul? Jésus aurait-il pu laisser les bandes funéraires exactement comme elles étaient lorsque son corps était dedans? Jésus aurait-il pu rouler la pierre depuis l'intérieur du tombeau? Jésus aurait-il pu échapper à la vigilance des soldats? Jésus aurait-il pu marcher sur le chemin d'Emmaüs? Aurait-il pu revenir d'Emmaüs à Jérusalem le soir même? Et en plus trouver un petit moment pour voir encore Pierre entre deux, puisqu'ils ont dit qu'ils l'ont vu ressusciter. Et bien d'autres choses. Et si les disciples avaient vu Jésus revenir d'un évanouissement, aurait-il pu proclamer la victoire sur la mort, sa divinité, être prêt à mourir pour lui avec une espérance vivante de la résurrection? A-t-on parlé de sa mort? Qui en a parlé? Vous avez d'autres questions? Ben notez-les et puis dites-moi-les, ça m'intéresse. On va un tout petit peu répondre à quelques-unes de ces questions. La première, la mort de Jésus a-t-elle été annoncée et par qui? Est-ce que cette mort a été annoncée? Eh bien oui. La mort de Jésus a été annoncée dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Je vais vous le prouver. Donc Dieu, par ses prophètes dans l'Ancien Testament, l'a annoncé et Jésus lui-même l'a annoncé. Lisons un premier texte dans Ésaïe 53. Voici ce texte. « Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. » Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité. Il s'est humilié. Il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération qui s'est souciée de ce qu'il était retranché de la terre des vivants, à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints. On a mis son tombeau parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'ait pas eu de fraude dans sa bouche. Encore le psaume 22, verset 14. « Ils ouvrent contre moi leur gueule comme un lion qui déchire et qui rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, tous mes os se disloquent. Mon corps est comme de la cire qui se fond au milieu de mes entrailles. Ma force dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu m'es réduit à la poussière de la mort. Car des chiens m'entourent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je compte tous mes os. Eux, ils observent, ils s'arrêtent, leur regard sur moi. Ils partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » Ou Zacharie 12, 10 encore. « Alors je répondrai sur la maison de David et sur tous les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils porteront son deuil comme on porte le deuil d'un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, aussi amèrement que sur un premier-né. » Mais on a l'impression que c'est des personnes qui étaient là, qui ont vu tout cela. Et pourtant, c'était écrit des centaines d'années avant. La mort de Jésus a été annoncée et tout s'est réalisé. Et non seulement ça a été annoncé des centaines d'années avant, mais Jésus lui-même l'a annoncé. Donc, je vais juste prendre Marc, comme ça je prends un évangile. Si je les prends les quatre, vous allez me dire, oui, mais comme ils sont parallèles, tu nous prends simplement les mêmes versets dans le même moment, puis simplement c'est chacun qui les... Je prends un évangile, ça va? Comme ça, là on sait que ce n'est pas les mêmes paroles. Marc 8, 31. Il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite trois jours après. Marc 9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Un peu plus loin, dans Marc 9, car il enseignait ses disciples en leur disant « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Encore Marc 10, 33. « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, le livreront aux païens, se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront, le feront mourir, et trois jours après, il ressuscitera. » Mais tout s'est exactement passé comme il l'avait annoncé. C'est un élément qui nous prouve qu'il est vraiment mort. Sinon, Dieu est menteur et Jésus est menteur. Continuons avec nos questions. Donc là, j'espère que c'est clair pour vous, cette question, elle est réglée. Hein? Oui, sa mort était annoncée et elle est arrivée. Ensuite, Jésus avait-il des ennemis qui voulaient sa mort? Est-ce qu'il avait des ennemis qui voulaient sa mort? Eh bien, oui, clairement. Et nous avons de nombreux textes qui décrivent cela. Et en fait, j'ai été marqué en faisant ces recherches que l'évangile de Jean, dès le début de l'évangile, nous parle en fait de cette haine mortelle que ses ennemis avaient envers Jésus. Dès le début. Vous pouvez relire tout l'évangile de Jean, vous verrez. Je prends déjà le verset 18 au chapitre 5. Donc, chapitre 5, c'est au début de Jean, hein, on est tout au début. Il y a 21 chapitres. Hein, donc. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il se disait et qui disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Et dans Jean 7, j'en prendrai que deux, hein, « Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait point parcourir la Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. » Est-ce que c'est clair? Jésus avait-il des ennemis qui voulaient sa mort? Oui, clairement. Et non seulement ses ennemis voulaient sa mort, mais ils l'ont condamné à mort et l'ont livré aux Romains pour qu'il soit crucifié sous la pression du peuple qui était soulevé par les ennemis de Jésus. Alors, est-ce que la mort de Jésus a été constatée? Question suivante. Est-ce qu'elle a été constatée? Est-ce que quelqu'un a pu voir qu'il est mort? Est-ce qu'il y avait un médecin légiste? C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui, un médecin légiste qui vient, etc. Eh bien, oui, clairement. Et nous avons au moins quatre témoins. Le premier, c'est le centurion, le chef des metteurs à mort, si vous voulez. Donc, habitué à constater la mort qu'il devait faire. Tel un médecin légiste, il était capable de certifier que Jésus était mort. Et il faut savoir que si un brigand s'échappait, généralement, les gardes qui avaient failli à leur tâche subissaient le châtiment que ceux qui ont réussi à partir devaient subir. Là, c'est le châtiment à mort, donc il avait intérêt à ce que Jésus soit réellement mort. Deuxièmement, les soldats ont descendu le corps de Jésus de la croix. Jésus, il n'est pas descendu tout seul de la croix. Ils l'ont descendu, c'est des soldats qui l'ont descendu. Et ils auraient pu constater qu'il est encore vivant. Et s'ils l'avaient constaté, l'achever, évidemment. Nous avons Joseph d'Arimathée et Nicodème qui ont touché le corps de Jésus. Ils ont senti qu'il était froid, sans vie, sans mouvement. Ils l'ont embaumé. C'est vrai qu'ils l'ont fait assez rapidement. Mais même si c'était rapidement, ça a pris plus que quelques minutes. Et ils étaient disciples de Jésus. Et ils auraient désiré de tout leur cœur que Jésus soit encore vivant. Et il y avait encore d'autres. Il y avait les femmes qui avaient suivi Jésus, qui observaient la scène. Elles cherchaient à voir tout élément de vie qui était encore présent pour donner un peu d'espoir auquel elles auraient pu s'accrocher. Mais pas un mouvement de thorax, pas un râle, pas un mouvement de la pupille, pas une seule réaction à donner un espoir. La vie s'en était allée. Bon, vous ne me croyez pas? Bon, je vous lis les textes, comme ça on sera clair. Hein. Matthieu 15, verset 43. Joseph d'Arimathée, membre distingué du conseil, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu, arriva. Il eut le courage de se rendre chez Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Étonné qu'il soit déjà mort, Pilate fit appeler le centurion qui lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Renseigné par ce centurion, il donna le corps à Joseph. Celui-ci acheta un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul, le déposa dans une tombe taillée dans le roc, puis il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Marie-Madeleine, mère de Jacques, regardait où on le mettait. Donc la mort de Jésus a-t-elle été constatée? Oui, clairement. Est-il médicalement possible que Jésus ne soit pas mort? Parce que voilà, il n'y en a qui insistent. Hein. Il dit, mais attends, ils ont peut-être rien. Est-ce que médicalement c'est possible? Eh bien non. Les souffrances et les détails donnés des réactions du corps de Jésus nous indiquent qu'il était impossible médicalement que Jésus ne soit pas mort. Je donne quelques éléments. Alors j'ai choisi de plutôt vous présenter ça d'une manière simplifiée. Pour parler dans tous les détails médicaux. Hein. Déjà, moi, je ne les maîtrise pas complètement. Et puis, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui les maîtrisent ici. Mais premièrement, avant d'être livré aux Romains, Jésus a vécu une anxiété intense. Là aussi, on pourrait expliquer tout ce qui s'est passé au jardin Gethsémané avec cette sueur, avec du sang, etc. Ça s'explique aussi médicalement, hein, qui a en plus rendu sa peau sensible, enfin, etc. Il a ensuite été rudoyé, frappé, maltraité. La flagellation romaine qui lacérait tout le dos jusqu'en bas des jambes avait déjà fait couler beaucoup de sang, sans parler de la couronne d'épines enfoncée sur sa tête par des coups. Et par cet effet, beaucoup de sang était perdu. Par cette perte de sang, le rythme cardiaque s'accélérait, hein, parce que le cœur essayait de pomper tout le sang qui n'était plus là, en fait. Hein. Et tout le corps cherche du liquide pour remplacer le volume du sang perdu. Plus aucune urine qui s'est produite et une soif intense s'est fait ressentir. Sur la croix, les bras auxquels le corps était pendu s'allongent, il dit jusqu'à 15 cm, hein, se disloquent. Les clous dans les poignets touchent des nerfs, provoquent des douleurs intenses. N'arrivant plus à bien respirer, le sang n'est plus oxygéné suffisamment. Le rythme cardiaque élevé favorise la crise cardiaque, qui a pour résultat une accumulation de liquide autour du poumon, qui a été constatée lorsque le soldat l'a percé d'une lance. Aucun doute médicalement possible, Jésus est mort avant qu'il ne soit descendu de la croix. Bon, le détective continue, quoi. Il dit, mais alors, les ennemis de Jésus l'auraient-ils laissé vivant, hein? Si vraiment il était encore vivant, est-ce qu'ils auraient pris des précautions pour qu'il ne puisse pas vivre? Eh bien oui, les ennemis de Jésus voulaient qu'il disparaisse et ne réapparaissent plus jamais vivants. Ils étaient tellement désireux qu'ils soient morts une fois pour toutes que eux, au contraire des disciples apeurés, se sont souvenus des paroles que Jésus avait prononcées et qu'il avait dit que 3 jours après, il allait ressusciter. Ils ont donc veillé à ce que le cadavre soit protégé contre toute tentative de s'emparer et même sans vie. Même sans vie, qu'il ne puisse pas bouger en fait. Hein. Voici ce que nous dit Matthieu, Matthieu 27. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble trouver Pilate et dire Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc qu'on assure du sépulcre jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, assurez-vous de lui comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent, s'assurèrent du sépulcre, et après avoir scellé la pierre et posté la garde. Ils ont vérifié que le cadavre était là et sans vie. Ils ont fermé le tombeau avec une pierre et ils ont posé un scellé qui interdit formellement, légalement, d'ouvrir ce lieu. Et ils se sont aussi certainement donné la peine de bloquer la pierre afin que toute ouverture soit impossible. Ils ont même mis des gardes entraînés devant le tombeau pour veiller. Pour eux, Jésus était une affaire terminée et la mort les ayant libérés de celui qui les gênait. Pour les ennemis de Jésus, Jésus était vraiment mort et il était gardé pour qu'il le reste. Bon, comme il y en a qui sont vraiment très très persévérants, ils disent « Mais si vraiment il n'était pas mort, détective, il continue, il dit, mais qu'auraient été les capacités particulières que Jésus aurait dû avoir s'il n'était pas mort ?» On devrait déjà comprendre que... On devrait déjà être convaincu, mais bon, continuons. Le détective de Capa qui veut continuer à explorer encore. Même si c'est invraisemblable. Invraisemblable que Jésus aurait pu faire être encore vivant de ce tombeau. Mais qu'est-ce qu'il aurait dû faire alors? Il aurait dû être capable de respirer avec un linge sur la terre, sur la tête, couché, linge sur la tête, et il aurait dû être capable de respirer, et puis ce linge était sûrement imbibé d'ailleurs de parfums et d'aromates. Il aurait dû être capable d'enlever ces bandelettes qui l'enveloppaient depuis l'intérieur. Il aurait dû être capable de faire rouler la pierre depuis l'intérieur du tombeau alors qu'elle était lourde, scellée et certainement bloquée et qu'il n'avait pas de prise. Il aurait dû tromper la vigilance des soldats ou alors se battre contre eux alors qu'il était gravement blessé, qu'il avait perdu une grande partie, si ce n'est tout son sang, et qu'il n'avait pas mangé ni bu depuis un certain temps. Il aurait dû être capable de se déplacer rapidement entre le tombeau où il s'est montré à Marie-Madeleine, le chemin où il s'est montré aux femmes, le déplacement en direction d'Emmaüs où il a tranquillement marché avec les disciples. Il aurait dû revenir à Jérusalem aussi rapidement que les disciples, en pleine forme, puisque eux, ils étaient tellement heureux qu'ils ont couru pour venir annoncer ça aux disciples. Et entre-temps, il aurait encore dû voir la peau de Pierre, puisqu'en fait, les disciples ont dit qu'ils l'avaient vu quand les autres sont arrivés. Waouh ! Et il aurait dû être guéri de toutes ses plaies, n'ayant que des cicatrices à montrer, en pleine forme, pour que ses disciples comprennent qu'il avait vaincu la mort sans mourir. Waouh ! Ah ouais, c'est pas mal, hein ? Superman, il peut se recoucher, hein ? C'est tout simplement impossible. Jésus était vraiment mort et il est ressuscité. Dire bon, d'accord, mais est-ce qu'on en a parlé ? Est-ce que c'est quelque chose qui est resté caché ou est-ce qu'on en a... Mais oui qu'on en a parlé. C'est clair. Là, je commencerai par une citation de William Milligan. Je trouve intéressante cette citation. Il y a beaucoup d'éléments. Alors, je vous la livre. Ça, vous êtes là, vous êtes revenu. Parce qu'il y avait beaucoup de choses là d'un coup. Hein. Donc maintenant, on va revenir sur cet élément-là qui dit ceci. Quand les premières craintes des disciples eurent disparu, il y eut une explosion de joie, de hardiesse et d'enthousiasme. Nous ne découvrons aucun sentiment de pitié. Donc là, imaginez, hein, si Jésus n'était pas mort, puis après qu'il le retrouvait comme il était sur la croix, ben, il n'y aurait pas ces sentiments ici. Hein. Nous ne découvrons aucun sentiment de pitié, ni de sympathie pour la souffrance, aucun désir de dispenser de l'aide suscité par l'apparition d'une personne qui aurait perdu connaissance sous l'effet de l'épuisement, de l'agonie, qui aurait vécu dans cet état du vendredi après-midi au dimanche matin et qui vivrait présentement ses premiers instants de reprise de conscience. Non, les disciples, en fait, en parlent avec force, courage et sans ambiguïté. Il était mort, il est ressuscité. Et tout le Nouveau Testament, basé sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ, est une réalité. Hein ? Si on voulait ajouter la mort et la résurrection de Jésus dans le Nouveau Testament, comme les musulmans disent, hein, c'était falsifié. Il n'aurait pas seulement fallu falsifier le Nouveau Testament, il aurait fallu le changer complètement. Complètement. Alors qu'en fait, si on commence à regarder les parchemins, en fait, toutes ces choses du passé, on se rend compte que le Nouveau Testament n'a pas changé. depuis le temps de Jésus, bien avant l'an 600 où Mohammed était présent. Vous savez, sans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, plus rien ne tient dans le christianisme. Plus rien. Plus rien. C'est pour ça qu'on attaque si souvent aussi la résurrection de Jésus-Christ. Voici quelques textes pour vous montrer, vous prouver qu'on en a parlé dans le Nouveau Testament. Romains 10, verset 9. Puis là, c'est quand même assez fort ce qui est écrit. Ça nous concerne. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Waouh, c'est notre salut, quoi. Si Jésus n'est pas mort et ressuscité, pas de salut. Ou Romains 14, verset 9, « Car Christ est mort, il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. » Ou encore dans Hébreux, « Mais celui qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, Jésus, nous le contemplons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. Il convenait en effet à celui par qui et pour qui tout existe et qui a conduit beaucoup de fils à la gloire d'élever à la perfection par la souffrance l'auteur de leur salut. » Ou encore Pierre qui nous dit ceci. En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'esprit. Ou encore Jean dans l'Apocalypse. Mais je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Voilà l'enquête de notre détective de Pâques. Dernière question, c'est est-ce qu'on en a parlé de la résurrection de Jésus ? Je n'ai même pas été dans les écrits historiques que l'on pourrait encore voir avec Justin ou Joseph. Les antiquités de... Ah, maintenant ça m'échappe, c'est pas grave. Flavius Joseph, merci. Joseph, c'était son nom de famille, voilà, Flavius Joseph, merci. Voilà, j'ai même pas encore été dans toutes ces choses-là, je devais limiter mon temps, c'est pas facile. Donc on arrive à la question suivante, ou au point suivant, pourquoi et pour qui Jésus est mort ? Je ne vais pas le développer beaucoup, je vais le développer juste avec un texte pour chacun. Pourquoi Jésus est-il mort ? Vous savez, John Piper a écrit un livre, « Les 50 raisons pourquoi Jésus est mort ». Vous êtes prêts pour 50 raisons ? Non, on ne va pas le faire maintenant. Mais vous pouvez le lire. 50 raisons, et vous pouvez en trouver d'autres encore. Moi, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Romains 5. Romains 5, je ne prendrai que ce texte pour ce matin. Romains 5, on va lire les versets 5 à 10. Donc, pourquoi Jésus est mort ? Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu s'est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. C'est nous, si jamais. Je ne peux pas faire toute l'explication maintenant, mais c'est nous, ça. Les impies. Verset 6. Verset 7. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Jésus est mort pour nous réconcilier avec Dieu. Jésus est mort pour nous réconcilier avec Dieu. Nous sommes justifiés par son sang. Nous sommes justifiés par son sang. Et la dette de nos péchés a été acquittée. Il a payé la dette de nos péchés à notre place. Puisqu'il est dit dans la parole de Dieu, c'est Dieu qui décide ce qui est juste ou pas juste. Et il dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus l'a subi pour que nous ne subissions pas la mort. Donc la question qui nous reste ici, c'est reconnaissez-vous votre état de pécheur ? Croyez-vous que Jésus a subi le jugement de Dieu à votre place ? Et la question suivante, c'est pour qui ? Pour qui Jésus est-il mort ? Là, de nouveau, je ne vais que lire un texte biblique, mais vous en trouverez d'eau tout aussi claire, beaucoup d'eau dans la parole de Dieu. Et on va dans Jean 10, on va juste lire ce texte dans Jean 10, le verset 14. C'est Jésus qui parle, Jésus lui-même, qui parle de ce que signifie son œuvre, sa mort. Jean 10, versets 14 et 15. Qui nous dit « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie, donc il va mourir, je donne ma vie pour mes brebis. Je donne ma vie pour mes brebis. » Jésus donc donne sa vie pour ses brebis, pour tous ceux qui viennent à lui et qui font partie de son troupeau. Dieu donne sa vie pour ses brebis, pour ceux qui font partie de son troupeau, qui sont venus à lui. La question, c'est, es-tu une brebis de Christ? Es-tu une brebis de Christ? As-tu reconnu tes péchés, demandé pardon, reçu le pardon de Dieu? Et être cette brebis de Christ, c'est avoir un bon berger qui prend soin de nous. Et j'arrive à la conclusion, qu'est-ce que la mort de Jésus change pour nous? Qu'est-ce que ça change en fait? Eh bien, c'est un vaste sujet. De nouveau, j'aurais pu faire une prédication par points, mais je vais prendre quelques éléments. J'en prends juste trois. Le premier élément, le livre de Hébreux nous explique bien qu'avant la mort de Jésus, il fallait faire des sacrifices pour le pardon des péchés. Vous n'avez pas pris votre petit agneau, votre bœuf, vos pigeons ce matin ici? C'est parce que Jésus est mort. Ça a changé quelque chose en fait. La mort de Jésus, le sacrifice parfait, fait qu'il n'y a plus besoin de ces sacrifices qui préfiguraient la mort de Christ. La mort de Jésus est suffisante. La mort de Jésus change donc que nous n'avons plus de sacrifice sanglant à offrir à Dieu pour le pardon de nos péchés. Jésus l'a fait une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Deuxièmement, Colossiens 2 nous dit ceci. Colossiens 2, verset 13. « Vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. » En fait, il y a plein de raisons juste dans ce texte aussi, de nouveau plein d'éléments qui changent. Hein. Mais par la mort de Jésus, l'acte rédigé contre nous est effacé. Vous savez que chaque fois que nous péchons, il y a un acte rédigé contre nous. Ben, c'est la même chose que quand on va au tribunal, il y a un acte qui dit, voilà, tel et tel a volé. C'est un acte qui dit, qui est contre cette personne, donc il va arriver au jugement, l'acte va être lu et il va être condamné. C'est comme ça en fait. Et cet acte rédigé contre nous, lorsque nous venons vers Jésus et nous demandons pardon, nous saisissons cette grâce qu'il a accomplie, qu'est-ce qui se passe avec cet acte? Il est effacé. Il n'existe plus. Il est supprimé même au verset 14 de Colossiens 2. Donc la mort de Jésus change donc que l'acte rédigé contre nous avec tous nos péchés est effacé. Vous imaginez, effacé. Pas juste à la gomme puis on arrive encore à lire dessous, hein. Ça n'existe plus. Il est effacé, il l'a supprimé en le clouant à la croix. Voilà une chose que la mort de Jésus change. Et troisièmement, Romains 6 nous dit, « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Car celui qui est mort est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes, et maintenant, il vit, et il vit pour Dieu. Troisième chose que ça change, c'est la dernière chose qu'on va partager encore ensemble. En fait, nous sommes identifiés à la mort de Christ. Et lors du baptême, c'est ce qu'on vit dans le baptême, on meurt. Puis vous savez, si on laissait les gens sous l'eau, puis qu'on ne les ressortait pas, ils seraient morts. Mais vous savez ce qu'il y a eu 3 jours après la mort de Jésus ? La résurrection ! C'est pour ça qu'on ne laisse pas les gens dans l'eau quand on fait le baptême. Ils ressortent. Et ça représente cette nouveauté de vie. Hein ? La mort de Jésus change que notre ancienne nature qui est morte avec lui. Je suis maintenant appelé à vivre selon la nouvelle nature spirituelle qu'il m'a donnée par sa résurrection. Et nous sommes vivants en lui. Oui, il y a encore des habitudes de cette ancienne nature qui sont là, c'est vrai. Mais nous sommes ressuscités avec Christ, morts avec Christ. Voilà ce que ça change en fait. La mort de Christ change que notre ancienne nature est morte et que nous avons reçu une nouvelle nature en Christ. Nous avons commencé cette avide enquête. Jésus est-il vraiment mort ? Eh bien, j'espère que vous pourrez maintenant répondre très clairement, oui, il est mort et il est ressuscité. Il est vivant, il est Dieu et par lui, je peux être sauvé. Prions. Éternel notre Dieu, nous n'avons pas l'habitude de nous pencher sur la mort de quelqu'un. Ce n'est pas un sujet que nous aimons aborder. Et Seigneur, nous te disons merci parce que ce n'est pas non plus un sujet que tu désires que nous ayons tout le temps devant nous, mais tu désires que nous soyons capables d'y faire face pour qu'ensuite nous puissions entrer dans la glorieuse joie de la résurrection. Oui, Jésus-Christ est vraiment mort. Il a pris sur lui nos fautes. Il a accompli tous ces sacrifices de l'Ancien Testament qui étaient des préfigurations. Il était parfait. Ce sacrifice a été accepté. Il a payé, on pourrait dire, les millions de francs de nos dettes en donnant sa vie, son sang. Mais il n'est pas resté dans le tombeau. Il est vivant. Et nous voulons, Seigneur, te louer pour cela. Nous te louons parce que le reste de ta parole, les autres prédications que nous verrons, le montreront toujours plus encore que Jésus est vraiment ressuscité, il est vivant. Et j'aimerais te prier que cette joie nous saisisse et que nous puissions nous réjouir dans ce jour de Pâques en nous rappelant que Jésus est vraiment mort et qu'il est vraiment ressuscité et qu'il est vivant. Dans le beau nom de Jésus-Christ, amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.